On va reprendre l'épître aux Philippiens. Épître aux Philippiens est toujours le même verset. Hein. Comme je vous ai dit, c'est Paul qui le disait aux Philippiens. C'est le verset 1. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses et pour vous cela est salutaire. Et c'est vrai que nous avons chapitre 3. Alors, nous avons déjà lu, oui, à partir du premier verset, et nous allons voir c'est vrai que quand la dernière fois, je vous ai parlé de ce verset où il est dit, mais ces choses, c'est le verset 7, mais ces choses qui étaient pour moi des gains. Je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. C'est quelque chose de très important. Vous avez on annonce l'évangile et il y a des âmes perdues. Il y a des âmes perdues par milliers, par millions et par milliards, hein, si on veut aller un peu plus loin. C'est un drame. Notre humanité se perd. Mais il y a aussi un autre drame dans les églises. C'est que les chrétiens ne sont pas consacrés à Christ. Et ça, c'est le drame de l'Église. L'Église n'a plus de puissance. L'Église est limitée dans toute son action, dans tout ce qu'elle doit faire, parce que, justement, les chrétiens ne consacrent pas leur vie. Ils sont prêts à consacrer leur argent. Ils sont prêts à consacrer du temps. Ils sont prêts à consacrer beaucoup de choses, même leur maison. Ouvrir leur maison et avoir des multitudes de choses, mais leur vie n'est pas consacrée. C'est là qu'est tout le problème. Et c'est quelqu'un disait, avec beaucoup de raison, que les chrétiens qui ne consacrent pas leur vie sont aussi coupables que les inconvertis qui refusent de se convertir. C'est exactement la même chose. C'est le même niveau, si je puis m'exprimer. Et c'est pour cela que je tiens à répéter et dire d'autres choses sur ce sujet-là, parce que nous manquons l'essentiel si nous ne consacrons pas notre vie, si nous n'avons pas renoncé à tout pour gagner Christ, pour que Christ soit à la première place, pour que Christ soit Seigneur de tout, pour que Christ soit la lumière de nos vies, pour qu'il soit celui qui réjouit notre cœur en toutes circonstances, pour celui vers qui se tend notre main. Dès le début de la journée, nous disons « Seigneur, conduis-moi, mène-moi dans le bon chemin, ma vie est dans tes mains, je renonce à moi-même, je renonce à mes projets, je renonce à mon avenir, je renonce à tout pour gagner Christ. » Et c'est un acte de foi extraordinaire. Ça arrive dans la vie, à un certain moment, je vais vous avouer, ça m'est arrivé à plusieurs reprises, je l'ai perdu 3 fois, et je l'ai trouvé 4 fois. Donc, pour vous dire qu'il y a des moments où on perd cette communion avec le Seigneur, le don de soi tout entier, parce qu'on prend l'initiative dans notre vie. On décide de diriger et de dire non. Ça, je vais faire à ma propre volonté. Et alors, on perd. On perd l'essentiel. Comme le salut ne peut pas se perdre. Si vous êtes sauvé, vous êtes sauvé une fois pour toutes. C'est définitif. Mais par contre, la vie qui est livré entièrement au Seigneur Jésus-Christ, vous pouvez la perdre. Et vous pouvez la retrouver aussi. C'est quelque chose d'extraordinaire, parce que vous n'avez aucune puissance, vous n'avez aucune force, vous n'avez aucune sagesse sans Jésus-Christ. Vous pouvez avoir une sagesse humaine, vous pouvez avoir du bon sens, vous pouvez même convaincre les gens à vos idées, mais vous n'avez pas amené quelqu'un à Christ. Vous pouvez faire un adepte de vos convictions ou de vos croyances, mais vous ne ferez pas un chrétien. C'est le malheur de ces personnes qui n'ont pas consacré leur vie, qui n'ont pas donné et qui essayent de faire quelque chose et qui n'amènent à rien. Et vous dites, mais j'ai témoigné des dizaines de fois, des milliers de fois, et ça n'a servi à rien. La personne, j'ai déjà tout dit, qu'est-ce que je vais lui dire de plus ? Je vais vous raconter cette petite histoire. C'est d'ailleurs dans un livre connu. C'était le pasteur Thoré qui il avait eu une série de réunions d'évangélisation. Et puis, à la fin de la réunion, les chrétiens étaient actifs, étaient en train de parler avec des inconvertis. Et au bout d'un certain temps, lui était un peu. Voilà, il laissait un petit peu les autres faire. Et il y a une dame qui s'approche de lui. Elle lui dit, une dame connue, hein, une dame de l'église, très active, hein, très bouillante, qui faisait beaucoup de choses. Et elle lui dit, Monsieur Toré, ça fait un moment que je parle avec cette dame, je lui ai tout dit. Je lui ai cité tous les versets et elle n'est pas encore convertie. Alors je ne sais pas quoi lui dire. Alors il faudrait que vous y alliez. Et cette dame, qui était une experte, qui connaissait parfaitement l'évangile, qui savait exactement ce qu'elle devait dire, le pasteur se disait, mais qu'est-ce que je vais dire de plus que cette dame? Alors il a prié. Il a dit, Seigneur, donne-moi les paroles que cette femme a besoin d'entendre. Et alors la dame est allée avec lui et il a commencé à parler, et il a ouvert la Bible et il lui a cité deux, trois versets. Elle dit, ah, mais là, je comprends. Je comprends. Et elle s'est convertie. Plus tard, donc cette dame qui assistait, elle lui a dit, Monsieur Toré, il y a un problème. Vous avez cité strictement les versets que j'ai cités. Pourquoi moi, elle ne s'est pas convertie et vous, elle s'est convertie? Oui, mais pour une raison. C'est que quand c'est fait dans l'énergie de notre chair, de notre force, la parole de Dieu dans notre bouche n'a pas de puissance. Tandis que quand nous avons donné notre vie, quand notre vie est consacrée totalement à Dieu, que nous sommes un vase utile à notre maître et qui répand des sources d'eau vive sur les autres, alors ces personnes sont édifiées et les âmes peuvent entendre l'évangile et disent, ah oui, mais c'est ça la vérité. C'est, je me rappelle un jour, j'avais parlé avec un étudiant, c'était à l'université de Perpignan. Il m'a dit, écoutez, je veux savoir exactement ce que vous croyez. Alors je lui ai dit, c'est pas difficile, et j'ai commencé par un verset, par un autre, et j'ai tout expliqué. Enfin, il m'a dit, c'est logique quand même, hein. C'est logique. Et il est parti. Il manquait ça. Ce qui fait que la personne dit, oui, c'est pour moi, je l'accepte. Et il manquait l'essentiel. Il manquait la puissance de la vie. Il manquait Christ. C'est tout était vrai, mais rien ne pouvait convaincre la personne. C'est pour cela que nous avons une grande responsabilité, une lourde responsabilité. Et nous marchandons avec Dieu. Et nous donnons, je te donne ça, mais il faudrait que tu me donnes ça. Et j'aimerais bien, mais avec Dieu, on ne marchande pas. Celui qui perd, gagne. Et il faut tout perdre pour pouvoir gagner quelque chose. Et c'est quand par la foi on a accepté de tout perdre que là, on peut être utilisé par Dieu. Et même quand on a tout perdu, qu'on a tout donné plutôt, eh bien, il y a une croissance. On va de progrès en progrès, on avance. Et un jour, le Seigneur nous montre et nous dit, mais ça, tu ne me l'as pas donné. On dit, mais si, Seigneur, je te l'avais donné. Oui, mais pas entièrement. Il y a une tolérance. Dieu ne nous révèle pas tout sur le moment. On donne. Mais plus tard, quand notre maturité est arrivée à un certain point, eh bien, Dieu nous révèle autre chose, une autre manière de nous donner. Et on donne un peu plus, un peu mieux. Et Dieu nous comble un peu plus et de meilleures choses. C'est quelque chose, vous savez. Il y a dans, si je peux comparer, si vous avez ces rivières, vous savez, qui serpentent dans la plaine et qui stagnent dans des lieux marécageux, et il y a une odeur qui monte et qui n'est pas très, hein, ça vous met pas en appétit. Il y a des maladies, il y a des moustiques, il y a des miasmes. Et c'est la vie de beaucoup de chrétiens est comme cela, parce qu'ils se contentent d'eux-mêmes et ils vivent pour eux-mêmes et d'eux-mêmes. Leur vie est morte. Ils sont chrétiens, ils sont nés de nouveau, mais leur vie est morte. C'est comme cela. Mais par contre, il y a une autre vie. Il y a une vie où le Seigneur Jésus prend la première place et où il est tout pour nous. Et dans cette vie, eh bien, c'est une vie qui va vers le haut, c'est une vie qui s'élève, c'est une vie où Dieu peut nous utiliser, il peut dire, arrête, va dans cette direction-là, parle à cette personne, fais telle chose, va dans cette... Et puis, on obéit, parce que lui sait exactement. Et on se rend compte que cette vie est une vie qui produit, une vie qui a du fruit, une vie qui devient de plus en plus semblable à celle de Jésus-Christ. Je vais vous raconter une petite histoire, je ne sais même pas si je ne vous l'ai pas déjà racontée. Mais j'ai vécu pendant bien des années dans un pays de vignes. Donc j'ai pris beaucoup de photos de ceps de vignes. Parce que le cep de vigne, le Seigneur Jésus a dit, je suis le vrai cep. Alors c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Alors j'ai pris des photos et je me suis rendu compte en étudiant la chose que vous avez le cep et il y a, en termes viticoles, on dit les bras. Chaque cep a ses bras. Voilà. Et les bras deviennent de plus en plus longs avec les années. Alors le vigneron coupe le sarment hein, qui porte du fruit, c'est là, hein. Et puis l'année suivante, ça a poussé sur ce bout coupé et il y a un sarment et le vigneron coupera de nouveau l'année suivante et d'année en année, le bras s'allonge. Mais si vous regardez la texture, l'aspect plutôt du cep et vous regardez l'aspect des bras qui ont vieilli, c'est la même chose. Ils se ressemblent parfaitement. Les nouveaux bouts, pas tout à fait. Il faut qu'ils vieillissent. Mais au fur et à mesure que le cep et ses bras s'allongent, et c'est nous, ces sarments qui sont devenus, ils sont partis du cep. On ne peut pas les couper. Si vous les coupez, vous meurtrissez le cep. Les vignerons vous diront ça. Hein. On ne coupe pas les bras. Hein. C'est à moins qu'ils soient morts. Mais ça ne se coupe pas. Parce qu'on mutile le cep. Et il perd de son énergie, de sa vigueur, et l'année suivante, eh bien, il y a moins de fruits. Mais par contre, le sarment, oui, il faut le couper. Et c'est cette ressemblance à Christ. Plus on s'approche de Christ, plus on a renoncé à nous-mêmes, plus on avance avec Christ, et plus cette ressemblance se fait sentir. Si bien que les gens voient en nous Jésus-Christ. Et nous avons des réactions qui sont les réactions de Jésus-Christ. Ce ne sont pas nos réactions. Et on se connaît bien. Moi, dans cette situation, j'aurais fait cela. Mais il y a quelque chose de plus fort qui fait que nous agissons d'une manière différente, et qui est la manière de Christ. C'est Paul qui disait aux Colossiens, Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est quelque chose de merveilleux. Nous avons... Satan, quand nous décidons de renoncer à nous-mêmes, de mettre notre vie entièrement entre ses mains, vient nous montrer tout ce que nous perdons. Et dans une certaine mesure, il a raison. Nous allons perdre, c'est vrai, mais il ne nous montre pas ce que nous allons gagner. Il y a des pertes nécessaires, dures. Elles vont même nous faire beaucoup de mal, hein? Mais ce que nous allons gagner est infiniment supérieur à ce que nous allons perdre. C'est le Seigneur Jésus qui disait, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Et beaucoup de gens suivent, mais n'ont pas renoncé à eux-mêmes et ne portent pas de croix. Et ils voudraient avoir le bénéfice de la vie consacrée, mais ne peuvent pas l'avoir parce qu'ils ont manqué deux étapes. Et deux étapes très importante. Je vais raconter une petite histoire. Imaginez que vous êtes au pied d'une croix. Voilà, vous avez une croix, elle est posée à côté, et vous avez le Seigneur Jésus, vous dit, voilà, cette croix, c'est ta croix. Prends-la et porte-la pendant ta vie. Et vous allez voir deux morceaux de bois immenses. Et vous allez essayer de la soulever, vous dites, mais Seigneur, je n'y pense pas, j'ai pas la force, toute une vie. Elle dit, oui, toute une vie. Et alors vous la redressez, et vous la mettez sur votre épaule, vous soulevez, plutôt on peut dire, vous l'arrachez, parce qu'elle pèse, hein, et vous soulevez ça, et en même temps que vous la soulevez, elle vous rentre dans les épaules, ça vous marque, hein, et les épines, parce qu'elle n'est pas rabotée, il y a des échardes, ça vous rentre. Et plus vous forcez, plus ça se colle à votre joue et vos mains en sont pleines. Et je lui dis, mais Seigneur, Je ne sais même pas si je vais pouvoir faire un pas avec cette croix-là. Le Seigneur Jésus vous dit, mais c'est ta croix. Il dit, Seigneur, parce que tu le dis, je vais le faire. Alors vous faites un pas. Et ce pas, vous tremblez, hein? Vous raidissez, vous poussez, et vous crispez, et vous faites un pas, vous chancelez. Vous dites, Seigneur, tu crois que je vais faire toute une vie avec ça? Et alors vous faites un deuxième pas. Alors avec le deuxième et le troisième pas, vous équilibrez un peu plus. Hein. Si vous avez porté des fardeaux, vous savez que les premiers pas, puis quand on est bien équilibré, bon, ça va un peu mieux. Et puis, vous avancez, mais le Seigneur, vous le regardez, et son visage est inexorable. Il est rempli de compassion, mais il faut la porter, cette croix. C'est votre devoir. Vous devez la porter. Et alors, vous avancez, un jour après l'autre. Un mois, 2 mois, 10 ans. Et un jour, vous vous rendez compte que la croix devient plus légère. Elle est moins lourde à porter. Et puis, vous continuez à avancer. Et vous avancez encore. Et un jour, vous vous rendez compte qu'il y a un miracle qui s'est passé. Non seulement la croix ne pèse plus, mais ce n'est plus vous qui portez la croix, c'est la croix qui vous porte. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que ce qui vous semblait dur à abandonner, eh bien, c'était votre handicap. C'est ce qui vous empêchait de progresser dans la vie chrétienne. Ce qui vous empêchait d'être un serviteur ou une servante de Dieu efficace dans l'œuvre de Dieu. Et ces choses que vous regardiez comme des gains, c'était votre perte, c'était votre anéantissement, c'était votre réprobation devant Dieu. Dieu ne pouvait pas vous approuver avec ces choses-là, même si elles étaient bonnes. Et personne n'aurait rien dit que c'était. Ce n'est pas un péché, mais ce n'est pas pour vous. Et ces choses-là vous handicapent, elles vous maintiennent en bas. Et quand vous les prenez et vous dites, je porte la croix, parce que Seigneur, tu le dis, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. J'avance en regardant vers lui, en comptant sur lui, par la foi. Et cette croix devient plus légère. Et ce qui faisait votre handicap a disparu. Et alors vous retrouvez, vous avez des forces. Vous avez des forces spirituelles qui vous manquaient parce que vous aviez ces choses auxquelles vous n'aviez pas renoncé. Parce qu'elles vous amoindrissaient, elles vous anéantissaient spirituellement. C'est Dieu agit avec sagesse. Quand il nous parle, c'est avec sagesse. Si le Seigneur Jésus a dit de porter notre croix, de renoncer à nous-mêmes, si Paul dit, j'ai renoncé à tout pour gagner Christ, j'ai regardé toutes choses comme de la boue afin de gagner Christ, mais c'est qu'il y a une bonne raison. Satan va essayer de vous convaincre que ce n'est pas vrai et que vous allez perdre. Mais en effet, il a raison, vous allez perdre. Mais ces pertes, mais ce sont des gains. Parce que ce sont des choses qui vous abaissent, qui vous empêche de grandir, qui vous empêche d'être les chrétiens que vous devez être, que vous pouvez être. Paul disait d'une autre manière dans l'épître aux Galates, au chapitre 2, le verset 20, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Vous savez, j'ai appris ce verset par cœur il y a bien des années, parce que je voulais l'avoir toujours avec moi. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas, mais je sais que dans ce verset, il y a une vérité éternelle dont j'ai un besoin absolu. Et je ne veux pas ne pas l'avoir sous les yeux ou dans la mémoire à un moment ou à un autre. Je l'ai mémorisé pour l'avoir toujours. Et en fait, plus tard, je me suis rendu compte de plusieurs choses. C'est que Christ est crucifié, mais moi je suis crucifié aussi. Et si je puis m'exprimer ainsi, sur la croix où Christ est crucifié, il est crucifié d'un côté et moi je suis crucifié de l'autre. C'est j'ai été crucifié avec Christ au même moment. Je n'étais pas né, mais j'ai été crucifié à ce moment-là. Quand Jésus-Christ est devenu mon sauveur, cette croix était la mienne et ce côté était le mien. Et Dieu a décidé et avait choisi que je devais être crucifié sur ce côté-là. Et j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ. On renonce à soi-même pour que Christ soit le premier, qu'il soit le Seigneur de nos vies, qui soit celui qui domine sur toute chose, celui qui nous donne les décisions que nous devons prendre, qui nous montre le chemin, qui nous éclaire de sa lumière, qui nous donne tout ce dont nous avons besoin. Parce que nous sommes totalement démunis en tant qu'êtres humains pour faire les choses de Dieu. Est-ce que vous pouvez comprendre que entre ce qui est charnel et ce qui est spirituel, il y a un espace aussi grand que l'infini. Ce qui est charnel ne peut pas faire ce qui est spirituel. C'est impossible. Il peut s'efforcer, il peut jouer la comédie, il peut avoir une certaine forme de spiritualité, mais ça ne sera jamais qu'une contrefaçon. Et je vais vous dire, les contrefaçons sont punies par la loi. Et par la loi divine. Hein. Parce que Dieu nous dira, mais tu es un hypocrite. On n'aimerait pas être. Le Seigneur Jésus a dit aux pharisiens, hypocrite, parce qu'ils faisaient, ils avaient l'apparence de la piété. Mais ils reniaient ce qui en faisait la force. C'est Paul qui le dit à Tite. Il dit, dans les derniers temps, les gens auront l'apparence de la piété, mais ils renieront ce qui en fait la force. Ce qui en fait la force, c'est ce renoncement à soi-même. Oui, ils ont l'apparence d'avoir renoncé à eux-mêmes, mais ils n'ont pas renoncé. Ils aiment toujours les choses de ce monde. Elles sont dans leur cœur. Ils en parlent avec passion. C'est, oh, bon, moi, je ne regarde plus. Je m'appelle ce frère, il me dit, tu sais, moi, je renonce au rugby, hein, totalement. Comme il était un petit peu enveloppé et qu'il était plutôt mou, alors j'apprenais que le rugby était une passion chez lui. Et alors, je lui dis, tu as raison, parce que pour marcher avec Christ, il y a des choses, tu peux pas, c'est pas compatible. On lui dit, mais le rugby, c'est fini, je regarde plus la télévision. Bon, et c'est un peu comme cela. Oh, ils ne sont pas passionnés, ils vont pas se mettre sur un terrain de rugby ou sur un terrain de foot. Mais attention, ils suivent tous les matchs, hein. Ils n'en manqueront aucun. Hein. Et ils savent tout. Et c'est à notre honte, nous chrétiens, de savoir ces choses, alors que on ne sait pas ce qui est dans la parole de Dieu. On a des hésitations sur la parole de Dieu. On ne la connaît pas comme il le faut. Et il y a des passages bibliques, mes frères et sœurs, que nous devons apprendre par cœur. Ils sont essentiels pour la vie chrétienne. Vous ne pouvez pas les laisser seulement écrits dans vos Bibles. Ils doivent être écrits dans votre cœur. C'est absolument essentiel. Il faut que cette parole travaille en nous. Il faut qu'elle agisse en nous. Et elle agit quand nous la mémorisons et que nous la gardons dans notre cœur. J'étais très réjoui quand Albert m'a montré tous ces petits papiers. Il m'a dit, je fais comme tu as dit. Hein. Je fais, alors d'un côté, il met la référence et de l'autre côté, le verset. Je l'ai eu fait, hein, vous savez, j'étais à l'école comme vous. Hein. À un moment ou à un autre, il a fallu que j'apprenne quelques centaines de versets. Oh, Satan vient vous dire que c'est difficile. Mais vous savez des choses qui sont bien plus difficiles que ce monde vous impose. C'est tous ces numéros de téléphone, tous ces codes, tous ces machins. Et je connais des personnes qui sont incollables. De mémoire, elles vous citent le numéro de téléphone d'un tel ou un tel ou une telle. Et ils n'ont pas besoin du répertoire. Hein. Donc ce n'est pas difficile. On peut étudier des versets et les apprendre par cœur. Cette parole doit rentrer dans notre cœur. Elle doit prendre de la place. Elle doit agir. Il faut que le Seigneur Jésus-Christ prenne la première place. Il est Seigneur. C'est quelque chose qui est incontournable. Parce que un jour, vous pouvez vivre jusqu'à un âge très avancé, mais un jour, il y a une fin à notre vie. Que ce soit tôt, que ce soit tard, un jour, il faut rentrer dans la présence de Dieu. Et là, il faut rendre des comptes. Et je veux dire, Seigneur, voilà, j'étais au culte tous les dimanches. Pas manqué beaucoup, hein, sauf si j'étais malade. Le Seigneur Jésus, mais tu m'as jamais rendu un culte. Vous étiez au culte, mais vous n'avez pas rendu un culte. Votre cœur n'y était pas. Votre pensée était, la prochaine balade que vous alliez faire, le prochain truc, le machin, et lundi, quand je vais rentrer, il va falloir que je m'occupe de ça, mon travail. Et puis vous dites, mais ma réunion, j'ai prié. Oui, 5 minutes le matin, 5 minutes le soir. J'ai lu la Bible, oui. Bien sûr. Et qu'est-ce que tu en as retenu? Rien. Ça n'a pas changé ta vie. On est satisfait de ce que l'on produit, mais il faut rendre des comptes. Et je peux vous dire, il y a une joie immense, immense, le jour où nous avons rencontré Christ face à face, et où il va nous dire, c'est bien bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Ce n'est pas tout le monde qui veut le dire. Hein. Il y a des personnes qui vont avoir honte. Quand elles vont entrer dans la présence de Dieu, elles ne se sont pas préparées. Et elles ont remis, de demain en demain, elles ont remis les choses essentielles jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de demain et que nous soyons dans l'éternité. Et alors, à ce moment-là, c'est la déception. Je me rappelle de ce livre, c'est Adolphe Monod qui l'a écrit, et bon, bien sûr, il est un bon serviteur de Dieu, mais il a écrit et il a dit « Les regrets d'un mourant ». Les regrets d'un mourant. Et c'est qu'est-ce qu'il aurait aimé faire s'il devait recommencer sa vie? Qu'est-ce qu'il aurait aimé faire? Mais n'est pas nécessaire de se trouver à notre lit de mort pour penser à cela et se dire « Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois améliorer dans ma vie? » Bon, nous sommes à la fin de l'année. Alors, il y a une bonne décision pour l'année prochaine. Hein. Mais à genoux, dans la présence de Dieu, remettez vos vies entre ses mains. Et tu dis, Seigneur, je te donne ma vie. Je te demande de prendre la première place, d'être le Seigneur de ma vie. Je renonce à mes ambitions. Je renonce à mes recherches personnelles. Et vous savez, nous pouvons même avoir des ambitions spirituelles. Hein. Ce n'est pas seulement des ambitions matérielles, ce n'est pas seulement une maison, mais il y a des personnes qui ont des ambitions spirituelles. Mais ces ambitions ne font que flatter notre ego. Et nous sommes obligés même de renoncer à ces choses et de dire, Seigneur, je remets tout cela entre tes mains. Conduis ma vie, prends les rênes de ma vie, dirige-la. Je renonce à moi-même. Je désire me charger chaque jour de ma croix. Je désire vivre une vie qui te glorifie. Une vie qui te glorifie à 100%. Une vie qui n'est pas vécue à moitié. Une vie qui est vécue à plein régime. Une vie qui est entièrement donnée. Une vie qui est entièrement pour toi. Pas pour moi. Ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme de la boue. Si vous parlez à ces gens du monde, ça c'est de la boue. Elle veut dire, non, c'est pas de la boue, c'est de l'or. C'est des maisons, c'est des voitures, c'est des relations, c'est une situation sociale. Mais ces choses, je vais y renoncer parce que le plus grand de tous les biens, c'est Christ. Comparé à Christ, ces choses qui ont de la valeur, certainement, elles ne sont rien comparées à Jésus-Christ. Gagner Christ, c'est une victoire. Je gagne Christ. Je m'approprie Christ. Christ devient de plus en plus important pour moi. Je deviens, comme disait Jean-Baptiste, il faut qu'il croisse et que je diminue. Et plus vous diminuez, et plus il grandit, et plus il prend de place. Il faut que je gagne Christ. On ne va pas vous dire, qu'est-ce que tu vas faire cette année? Je vais gagner Christ. Je veux terminer l'année 2016 en ayant gagné davantage de Jésus-Christ, en ayant plus près, étant plus près de Jésus-Christ que je ne l'ai été en 2015. C'est à Noël, je vous dis ces choses de fin d'année. Mais bon, c'est quand même de situation. Et même si ce n'était pas... Là aussi, c'est quelque chose qui m'est absolument égal, que je vous dise cela en début d'année ou en fin d'année ou en milieu d'année. Ce qui est important, c'est que vous fassiez cette démarche devant Dieu, sincèrement, de s'humilier devant Dieu et de dire, Seigneur, prends la première place. Non pas moi, mais toi. Non pas mes intérêts, mais les tiens. Je te recherche, toi. Je suis prêt à tout perdre. Et si tu me demandes, je te donnerai. Je ne veux plus penser à moi. Je ne veux plus penser à mes intérêts. Je ne veux plus me chercher moi-même. Parce que vous savez, qu'est-ce que vous allez vous chercher vous-même? Qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes un tel trésor que vous faut que vous cherchiez vous-même? C'est le plus grand de tous les trésors, c'est Christ. C'est en lui que se trouvent tous les trésors de la connaissance, de la sagesse. C'est là que vous trouvez, en Jésus-Christ, tout ce dont vous avez besoin. C'est la prochaine méditation, c'est connaître Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, ce que je vous laisse, c'est Jésus-Christ qui prend la première place dans votre vie. Et je vais vous dire, vous êtes sous l'impression de ce que je viens de vous dire. Ne laissez pas passer cette nuit sans avoir mis votre vie devant Dieu et lui avoir tout remis. Et lui dire, Seigneur, prends toute ma vie. Parce que ce moment que vous avez vivez maintenant, je sais que le Seigneur a touché votre cœur. Parce que vous êtes des chrétiens qui aimez le Seigneur. Mais vous avez besoin d'aller plus loin. Et vous êtes sous une certaine impression. Gardez-la. Et faites ce que vous devez faire. N'attendez pas. Parce que Satan va vous dire demain. C'est un menteur. Demain, vous ne le ferez pas. Ce que vous ne faites pas aujourd'hui, vous ne le ferez pas demain. Parce que si vous vouliez vraiment le faire, vous le feriez aujourd'hui. Si vous dites demain, c'est que vous n'avez pas envie de le faire. Donc vous ne le ferez pas demain. Mais c'est maintenant, devant Dieu, vous lui dites. Quand la deuxième fois où j'ai découvert ces choses-là, parce que je les ai perdues, je les ai retrouvées, mais la deuxième fois, c'était un pasteur qui parlait et je l'écoutais et il me disait en même temps qu'il écoutait, je l'ai reçu. Et en même temps qu'il le disait, je l'ai saisi et je l'ai vécu, je l'ai eu. Christ était ma vie, ma joie. Tout ce dont j'ai besoin. Tout le reste peut vous manquer. Pouvez être comme Robinson Crusoé, moins son bateau, sur une île déserte. Hein? Eh bien, vous êtes comblé au-delà de toute mesure parce que vous avez Christ. Vous pouvez le transporter partout avec vous. Je termine par une petite histoire. C'était une dame qui est une châtelaine anglaise. Elle avait un nom, même. Et son mari avait fait des transactions qui ont mal tourné. Et si bien qu'ils se sont trouvés ruinés, mais ce qui s'appelle ruinés, plus rien. Alors au 19e siècle, quand un Anglais était ruiné, il tournait les yeux vers l'Amérique. S'il avait de quoi se payer un billet, ben, il franchissait l'Atlantique et il allait faire fortune, recommencer sa vie aux États-Unis. Voilà. Donc il est arrivé. La côte Est était encore trop chère pour lui. Donc il est parti comme pionnier, et ils sont partis tous les deux comme pionniers dans l'Ouest, et ils ont habité une cabane de bûcheron. Et la dame lavait son linge à la rivière, alors qu'avant elle avait des servantes pour laver le linge. Oui, mais il s'était passé quelque chose dans sa vie. Jésus-Christ, dans ce dénuement, dans cette pauvreté, elle avait appris à se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. Alors que c'était une femme mondaine, dans le dénuement, elle a appris à compter sur Christ. Et Christ est devenu précieux. Elle a dit, combien je préfère ma situation maintenant à celle que j'avais avant. C'est cela, la vérité. Christ qui est notre vie, qui est notre joie. Voilà, je ne vais pas aller plus loin.